Chapitre 29. Retour au pays. Alors qu'il avait fallu à Perrine 6 ou 7 bonds dans le rêve du loup, la traversée du bois de l'Ouest, à cheval, dura 3 interminables journées. Dans les dunes de sable, les aïels n'eurent aucun mal à suivre le rythme à pied, car les bêtes, épuisées par les montées et les descentes perpétuelles, n'avançaient vraiment pas vite. Les blessures de Perrine le démangeaient terriblement, le signe indéniable qu'elle guérissait. Le baume de Fayle s'avérait efficace. D'humeur maussade, les voyageurs, toujours en 2 groupes, desserrèrent à peine les dents. Par bonheur, le cri d'un renard ou d'un faucon vint de temps en temps briser la monotonie. Et pas un corbeau ne se montra. En plusieurs occasions, Perrine eut le sentiment que Fayle allait venir chevaucher à côté de lui afin d'engager la conversation. Mais elle s'en abstint chaque fois et il s'en réjouit. S'il aurait aimé lui parler, cela risquait de conduire à une réconciliation, et le jeune homme s'en voulait beaucoup d'en avoir tellement envie. Elle avait trompé Loyal, puis elle s'était jouée de lui. Sa présence allait rendre tout plus difficile et plus déchirant. Pourtant, il brûlait d'envie de l'embrasser. En même temps, il rêvait de l'entendre dire qu'elle partait parce qu'elle en avait soupé de lui. Pourquoi était-elle si entêtée? Les 3 femmes faisaient bande à part, les aïels flanquant Hirondelle quand l'une ou l'autre ne partait pas en avant en éclaireuse. Parfois, elles murmuraient entre elles, gloussaient un peu, et évitaient ensuite de poser les yeux sur Perrine. Une manière de l'ostraciser si parlante qu'elles auraient tout aussi bien pu lui jeter des pierres. Sur la demande du jeune homme, Loyal faisait toujours partie du groupe Fayle, même si cette situation le rendait malade. Souvent, ses oreilles frémissaient d'indignation, comme s'il regrettait d'avoir un jour eu l'idée de frayer avec des humains. Gaol, en revanche, semblait trouver tout ça amusant. Chaque fois que Perrine le regardait, il affichait un discret petit sourire. Pétri d'inquiétude, Perrine gardait son arc bandé en travers de sa selle, juste au cas où. Tueur rôdait-il sur le territoire dans le seul rêve du loup, ou également dans le monde réel? La seconde possibilité semblait hélas plus probable, et l'apprenti forgeron le soupçonnait d'avoir abattu le faucon sans raison. Une complication dont il se serait bien passé, ayant déjà sur les bras les fils de la lumière. Sa famille vivait dans une grande ferme, à plus d'une demi-journée de cheval au-delà de Chandemonde, pratiquement dans le bois de l'eau. Son père, sa mère, ses 2 sœurs et le petit dernier. À 9 ans, Paetram devait plus que jamais détester qu'on l'appelle le bébé. Dézel, âgé de 12 ans, était sûrement toujours rondelette, et Adora, 16 ans, devait se préparer à natter ses cheveux. Il y avait aussi oncle Edward, le frère de son père, tante Magdé, tous les 2 enveloppés et se ressemblant presque comme 2 gouttes d'eau, et leurs enfants. Sans oublier tante Néaine, qui allait tous les matins sur la tombe d'oncle Carline, ses enfants et la grand-tante Ealcine, une vieille fille au nez crochu et à l'œil d'aigle quand il s'agissait de découvrir ce que faisaient les autres à des lieux à la ronde. Placée en apprentissage chez maître Louhan, Perrine voyait tout ce petit monde les jours de fête. Sinon, la distance était dissuasive, d'autant plus lorsqu'il y avait toujours du travail en souffrance. Mais si les fils de la lumière traquaient les Aïbara, ils n'auraient aucun mal à les trouver. Et c'était ça la responsabilité de Perrine, pas le nommer tueur. Sur sa liste de priorités, protéger sa famille et Fayle figurait à la première place. Ensuite venaient le village et les loups. Puis tueur, très loin derrière. Après tout, un homme ne pouvait pas tout faire. Dans le bois de l'eau, le sol rocheux laissait fort peu de place à la végétation. On y trouvait donc très peu de fermes et par conséquent, pas beaucoup de pistes. Enfant, Perrine avait souvent erré dans ces bois, seule ou avec Matt et Rand, chassant à la fronde ou à l'arc, posant des collets, ou se baladant pour le simple plaisir de découvrir de nouveaux paysages. Dans les branches des arbres, des écureuils à large queue babillaient inlassablement. Des merles noirs les imitaient et des cailles à dos bleus s'envolaient des buissons sur le passage des voyageurs. Les signes que Perrine rentrait pour de bon chez lui. Ici, l'odeur de la poussière soulevée par les sabots des chevaux n'était à nul autre pareille. Au lieu de filer tout droit sur Chandemonde, Perrine préféra bifurquer vers le nord à travers la forêt jusqu'à ce que la double colonne de voyageurs croise la piste rudimentaire appelée la route de la carrière. Un nom dont nul n'aurait pu expliquer l'origine, d'autant plus qu'il s'agissait, en guise de route, d'une bande de terrain envahie par les mauvaises herbes qu'on ne remarquait pas vraiment, malgré l'absence d'arbres, sauf si on repérait les ornières laissées par des générations de chariots et de charrettes. De ci, de là,
Quelques antiques pavés témoignaient d'une grandeur passée, une époque où cette route conduisait d'une carrière à Manéterraine, probablement. La ferme que Perrine cherchait se trouvait non loin de la route, derrière plusieurs rangées de pommiers et de poiriers aux branches lestées de fruits. Avant de voir le bâtiment, le jeune homme sentit une odeur de brûlé. Assez ancienne, mais même une année entière ne suffisait pas à dissiper les odeurs de ce genre. Tirant sur les rênes de trotteur, Perrine resta un moment à la lisière des arbres avant de se forcer à entrer dans ce qui était jadis la ferme des Haltor. Des bâtiments, il ne restait plus que la bergerie, sa porte ouverte ne tenant plus que par un seul gond. Encore debout, la cheminée noire de suie de la ferme elle-même projetait une ombre sinistre sur la charpente carbonisée. La grange et le séchoir à tabac n'étaient plus que des cendres. Livrés aux mauvaises herbes, le potager et le champ de tabac n'étaient presque plus reconnaissables. Dans le jardin, tout avait fané, à part les pivoines et le lierre. Perrine ne songea même pas à encocher une flèche. Comme en témoignait le bois carbonisé gonflé d'eau de pluie, les incendies remontaient à des semaines. Et pour pousser ainsi, le lierre sauvage avait besoin de près d'un mois. Ne se laissant arrêter par aucun obstacle, le végétal s'était même enroulé autour de la charrue et de la herse abandonnée non loin du champ. Sous les feuilles oblongues presque blanches, on apercevait de la rouille. Les aïels inspectèrent pourtant soigneusement le site, retournant la terre et les cendres du bout de leur lance. Quand elle sortit de la ferme en ruine, Bane regarda Perrine et fit « non » de la tête. Au moins, Tam Haltor n'était pas mort dans les flammes.
« Ils savent, Rand. Tu aurais dû venir. »
Perrine dut se retenir pour ne pas lancer Trotteur au galop et ne plus l'arrêter jusqu'à ce qu'il ait atteint la ferme des Aibara. Une idée idiote de toute façon, car le cheval serait tombé raide mort bien longtemps avant d'avoir atteint sa destination. Ce carnage pouvait être l'œuvre des Trollocs. Dans ce cas, ses proches travaillaient peut-être toujours à la ferme, en parfaite sécurité. Perrine inspira à fond, mais l'odeur de brûlé voilait toutes les autres. Gaol vint se camper à côté du jeune homme.
« Les pillards sont partis depuis longtemps, » dit-il. « Ils ont tué une moitié des moutons et éparpillé les autres. Quelqu'un est venu plus tard rassembler les bêtes pour les conduire vers le nord. Deux hommes, je dirais. Mais les empreintes sont trop anciennes pour que j'en sois sûr.
Un indice sur l'identité des pillards ?»
Gaol secoua la tête. Ainsi, c'était peut-être bien les Trollocs. Jugeant étrange d'espérer une chose pareille, Perrine se trouva en outre parfaitement stupide. Les capes blanches connaissaient son nom et celui de Rand, semblait-il.
« Les fils connaissent mon nom. »
Après un dernier regard à la ferme des Haltor, Perrine talonna Trotteur. Loyal avait mis pied à terre près des arbres fruitiers. Même ainsi, sa tête arrivait toujours au niveau des branches. Fail dirigea sa jument vers Perrine, le dévisageant avec une rare intensité.
« C'est... Tu connais les gens qui vivaient ici ?»«
Rand et son père. »«
Oh, j'ai cru que... »
Le soulagement dans la voix de la jeune femme en dit plus long qu'un discours.
« Ta famille vit près d'ici ?»«
Non, »
répondit sèchement Perrine. Fail eut un mouvement de recul, comme s'il l'avait giflé. Mais elle continua à le regarder en silence. Que fallait-il donc inventer pour qu'elle s'en aille enfin ? Beaucoup plus que le jeune homme était disposé à faire, sinon il serait déjà passé à l'action. Le soleil tutoyant la cime des arbres, les ombres s'allongèrent démesurément. Faisant volter Trotteur, Perrine tourna le dos à Fail.
« Gaul, nous allons camper très près de notre destination cette nuit, et je veux partir dès l'aube demain matin. »
Perrine jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Très droite sur sa selle, Fail était en train de rejoindre Loyal.
« À Champ des Mondes, ils seront. Où sont les capes blanches ? Comme ça, je pourrai me rendre avant qu'on fasse du mal à ma famille. »
Si les siens étaient encore en vie. Et si la ferme où il avait grandi tenait encore debout. Vraiment, il devait arriver à temps pour empêcher une pareille horreur.
« Ils sauront où en sont les choses. »
acheva Perrine pour l'aïel.
« Dès l'aube, donc. »
Gaol hésita.
« Tu ne la feras pas partir, Perrine. Cette femme est presque une farde à Rismaï. Quand une promise t'aime, pas moyen de lui échapper, même en courant très vite.
« Tu veux bien me laisser m'occuper de ça ?»
Conscient d'avoir été brusque, Perrine se corrigea, car ce n'était pas Gaul qu'il voulait voir partir.
« Dès l'aube, oui. Quand Fail dormira encore. »
Cette nuit-là, les deux camps, dressés près des pommiers, furent d'une tranquillité pesante. En plusieurs occasions, l'une ou l'autre des aïels se leva pour jeter un coup d'œil en direction du feu de camp de Perrine et de Gaul, mais il n'y eut aucun bruit, à part des ululements de hibou et les habituels raclements de sabots des chevaux. Perrine ne put pas dormir. Ce fut donc une heure avant l'aube, la pleine lune commençant à se coucher, qu'il s'éclipsa en compagnie de Gaul, les bottes souples de la Yelle faisant encore moins de bruit que les sabots enveloppés de tissu des chevaux. Bane, ou peut-être Chiad, les vit partir. Mais elle ne réveilla pas Feil, une réaction dont Perrine lui fut reconnaissant. Le soleil était déjà assez haut dans le ciel lorsque les deux voyageurs sortirent du bois de l'ouest, un peu au-dessus du village, et s'engagèrent sur des pistes pour chariots et des sentiers le plus souvent bordés de haies ou de murets de pierre. À cette heure où les maîtresses de maison cuisaient le pain, un filet de fumée sortait de la cheminée de toutes les demeures. Tandis que les hommes travaillaient déjà dans les champs de tabac ou de céréales, les jeunes garçons jouaient les bergers avec leurs troupeaux de moutons au museau noir. Quelques personnes s'avisèrent du passage des voyageurs. Incitant Trotteur à ne pas ralentir, Perrine espéra que ces villageois étaient trop loin pour le reconnaître ou pour s'étonner de l'étrange tenue de Gaul et de ses lances encore plus bizarres. Certain que les rues de Chandemonde grouilleraient de monde, l'apprenti forgeron contourna le village par l'est, passant le plus loin possible des maisons aux toits de chaume agglutinées autour de la place verte. Là où une source jaillissait d'un rocher avec assez de force pour assommer un homme, donnant naissance à la cascade à vin. Les dégâts dont Perrine gardait le souvenir vivace, des maisons brûlées et des toits roussis à la suite de l'attaque des Trollocs, n'étaient plus visibles nulle part. À croire qu'il n'y avait jamais eu de raid contre le village, et Perrine priait pour que Chandemonde n'ait plus jamais à revivre un tel drame. L'auberge de la cascade à vin se dressait à la lisière orientale de la place verte, entre le pont aux chariots qui enjambait la rivière et d'antiques fondations de pierre au milieu desquelles trônait un chêne vénérable. Sous ses branches étaient disposées des tables où les villageois, les après-midi de repos, venaient s'installer pour regarder les diverses joutes amicales. À cette heure matinale, ces tables étaient bien entendu désertes. Au-delà de l'auberge, il n'y avait que quelques maisons clairsemées. L'établissement tenu par le père des Gwen, aubergiste et bourgmestre de Chandemonde, était doté d'un rez-de-chaussée en pierre, un matériau récupéré dans la rivière, et d'un étage au mur blanchi à la chaux. Hérissé de cheminées, le toit de la cascade à vin était le seul, à des lieues à la ronde, qui fut en tuiles rouges et non en chaume. Perrine attacha Trotteur et le cheval de bât à un poteau près de la porte de la cuisine et observa les écuries au toit de chaume. Des hommes travaillaient à l'intérieur. Sans doute Hou et Tad, les employés de Maître Alvéré, occupés à nettoyer les stalles où leur patron gardait les puissants chevaux d'Urien qu'il louait aux fermiers pour les travaux difficiles ou demandant beaucoup de force. Des bruits montaient également de derrière l'auberge, des éclats de voix sur la place verte, des cris d'oie, le vacarme des roues d'un chariot. Perrine ne déchargea pas ses chevaux, car il n'avait pas l'intention de s'attarder. Faisant signe à Gaul de le suivre, il entra dans l'auberge, son arc à la main, avant qu'un des garçons d'écurie ait l'idée de sortir prendre un peu l'air et le reconnaisse. La cuisine était vide, ses deux fours éteints et une seule cheminée active. Une bonne odeur de cuisson planait pourtant dans l'air, du pain et du pain d'épices. En règle générale, l'auberge ne croulait pas sous les clients, sauf quand les marchands de Berlone venaient acheter de la laine ou du tabac. À cela, on pouvait ajouter un colporteur de temps en temps, lorsque la neige ne rendait pas les routes impraticables. Bien entendu, les villageois passaient régulièrement boire une chope ou manger un morceau, mais pas à cette heure où ils étaient tous au travail. Estimant qu'il devait quand même y avoir quelqu'un, Perrine remonta sur la pointe des pieds le couloir qui conduisait de la cuisine à la salle commune. Entrebâillant la porte, il jeta un coup d'œil à la vaste pièce carrée qu'il connaissait par cœur, avec sa grande cheminée, en pierre de la rivière également, sur le manteau de laquelle trônait le pot à tabac poli de Maître Alvéré et une horloge à laquelle il tenait comme à la prunelle de ses yeux. Bizarrement, tout ce décor parut plus petit qu'avant à Perrine, y compris les fauteuils à haut dossier devant la cheminée qui servaient de siège aux notables lors des réunions du conseil. Les livres de Brandelwyn Alvéré étaient rangés sur une étagère qui faisait face à la cheminée. En un temps pas si lointain, Perrine était incapable d'imaginer qu'on puisse trouver davantage de livres au même endroit. Des tonneaux de bière et de vin s'alignaient le long des autres murs. Griffur, le chat roux de l'auberge, dormait comme d'habitude sur l'une de ses barriques. La salle commune était vide, à l'exception de Bran Alvéré et de sa femme Marine. Vêtue d'un long tablier blanc, la mère des Gwen s'acharnait à faire briller l'argenterie et les étains de l'établissement. Costaud, grisonnant et ventru, Bran était tout l'opposé de sa femme d'une minceur de liane. Sa natte, striée de gris tirée derrière une épaule, Marine n'avait pas changé. Une femme maternelle qui embaumait le pain frais et la rose. Dans le souvenir de Perrine, les Alvéré étaient des gens ouverts et joviaux. Là, ils semblaient sinistres, et le bourgmestre affichait une expression contrariée qui n'avait sûrement rien à voir avec la coupe d'argent qu'il polissait sans grande conviction.
« Maître et maîtresse Alvéré !»
dit Perrine en poussant la porte.
« C'est moi !»
Les deux époux se levèrent d'un bond, renversèrent leurs chaises et réveillèrent en sursaut l'infortuné Griffure. Marine porta les mains à sa bouche, l'air aussi ébahi que son mari de voir Perrine en compagnie d'un étrange guerrier. Mal à l'aise, le jeune homme fit nerveusement passer son arc d'une main à l'autre. Et son inquiétude ne s'apaisa pas quand il vit Bran foncer vers la fenêtre. Pour quelqu'un de sa corpulence, il se déplaçait à une vitesse surprenante, écartait le fin rideau d'été et jetait un coup d'œil dehors, comme s'il redoutait de découvrir une horde d'Aiel.
« Perrine ?»
souffla Marine.
« C'est vraiment toi ? Avec cette barbe, j'ai failli ne pas te reconnaître. Ta joue, tu es blessée. Et Gwen est-elle avec toi ?»
Perrine toucha la cicatrice quasiment guérie sur sa joue. Quel crétin il était de ne pas s'être rendu un peu plus présentable. Au moins, il aurait pu penser à laisser son arc et sa hache dans la cuisine. Sa nouvelle apparence pouvait effrayer des braves gens. Il aurait dû en avoir conscience.
« Non. Ma blessure n'a aucun lien avec Egwene. Elle est en sécurité. »
Si elle était déjà en route pour Tarvalon, elle était encore moins en danger qu'à Théar avec Grande. Dans tous les cas, elle ne risquait pas grand-chose. Mais la mère de la jeune femme avait sûrement besoin de nouvelles un peu moins vagues.
« Maîtresse Alvéré, Egwene suit une formation pour devenir une Aes Sedai. Nineveh aussi. »«
Je sais. »
dit Marine en tapotant la poche de son tablier.
« J'ai reçu 3 lettres d'elle en provenance de Tarvalon. D'après ce qu'elle écrit, il aurait dû y en avoir plus, et au moins une de Nineveh. Mais 3, c'est déjà pas mal. Egwene évoque sa formation, qui me semble très pénible. »«
Elle l'a choisie librement, maîtresse Alvéré. » »«
3 lettres ?» La culpabilité étreignit le cœur de Perrine. Lui, il n'avait écrit à personne depuis les petits mots laissés à ses parents et à maître Luhan, cette terrible nuit où Moiraine l'avait arraché à Chandemonde. Pas une seule ligne.
« Oui, elle a choisi, »
dit Marine.
« Même si ce n'est pas l'avenir dont je rêvais pour elle. Mais c'est un sujet dont je ne peux pas parler avec grand monde, pas vrai. Elle raconte qu'elle s'est fait des amis, de braves filles, on dirait. Elaine et Mine, tu les connais ?»«
Je les ai rencontrées, oui. Et ce sont effectivement de braves filles. »
Qu'avait exactement révélé Egwene dans ses lettres ? Pas grand-chose, probablement. Que maîtresse Alvéré s'imagine ce qui lui chante. Pourquoi l'aurait-il inquiétée en lui racontant des choses sur lesquelles elle n'avait aucune influence ? De toute façon, c'était du passé. Désormais, Egwene n'avait plus rien à redouter. Se rappelant que Gaol était là, Perrine se hâta de faire les présentations. Bran silla quand le jeune homme parla d'un aïel, et il jeta un regard noir aux lances et aux voiles pour l'heure abaissée du guerrier.
« Bienvenue à Chandemonde, maître Gaol. »
dit Marine avec sa chaleur habituelle.
« Et dans notre auberge ?»«
Puissiez-vous ne jamais manquer d'eau et d'ombre, maîtresse du toit ?»
dit Gaol en s'inclinant.
« Je demande l'autorisation de défendre votre demeure et votre fief. »
Marine hésita à peine, comme si elle savait que répondre à cette formule rituelle.
« Une offre généreuse, mais vous devez me laisser décider du moment où elle me sera utile. »
« Qu'il en soit ainsi, maîtresse du toit. Votre honneur est le mien. »
Gaol sortit de sous sa veste une petite salière en or, une coupe miniature en équilibre sur le dos d'un lion astucieusement représenté, et la tendit à Marine.
« Veuillez accepter ce modeste présent pour votre demeure. »
Maîtresse Alvéré parvint à dissimuler sa surprise et s'inclina courtoisement. Sur tout le territoire, Perrine doutait qu'on puisse trouver un objet si raffiné, et surtout en or. À 2 rivières, les pièces d'or étaient rarissimes, alors les ornements. Et avec un peu de chance, Marine ne saurait jamais que sa salière faisait partie du butin pris dans la pierre de Théar. En tout cas, Perrine aurait parié que c'était de là qu'elle venait.
« Mon garçon, »
fit Bran,
« je devrais sans doute dire « bienvenue chez toi ». Mais pourquoi es-tu de retour ?»«
J'ai entendu parler des capes blanches, maître, »
répondit Perrine. Le bourgmestre et son épouse échangèrent des regards inquiets.
« Pourquoi es-tu de retour ?»
répéta Bran.
« Tu ne pourras rien empêcher, mon garçon, ni modifier quoi que ce soit. Il vaudrait mieux que tu files. Si tu n'as pas de cheval, je t'en offrirai un. Si tu en possèdes un, cours le rejoindre, saute en selle et galope vers le nord. Je pensais que les fils de la lumière surveillaient Bac sur ta reine. C'est eux qui t'ont fait ça, sur la joue?
Non, c'est...
Aucune importance. Si tu les as évités en venant, tu les éviteras en partant. Leur camp est à Colline de la Garde, mais leurs patrouilles vont partout. Fiche le camp, mon garçon!
Ne traîne pas, Perrine.
Renchérit Marine, sur le ton doux mais ferme qui incitait en général les gens à faire ce qu'elles voulaient.
Tu n'as pas de temps à perdre, même pas une heure. Je te ferai un petit paquet. Du pain, du fromage, du jambon, du bœuf séché et des condiments. Perrine, il faut que tu partes.
C'est impossible. Vous savez qu'ils me cherchent. Sinon, vous ne m'inciteriez pas à filer.
Les époux Alvéré n'avaient rien dit sur ses yeux, ne demandant même pas s'il était malade. Marine n'avait même pas été surprise. Il savait.
En me rendant, je peux modifier les choses. Protéger ma famille de...
Perrine sursauta quand la porte d'entrée s'ouvrit pour laisser passer Feil, Bane et Chiad sur les talons. Bran se passa une main dans les cheveux. Même s'il faisait le lien entre la tenue des deux femmes et celle de Gaul, l'idée qu'il puisse exister des guerrières le dépassait un peu. Cela dit, il semblait surtout irrité qu'on s'introduise ainsi chez lui. Assis sur son tonneau, Griffur regardait avec méfiance cette sarabande d'étrangers. Perrine se demanda s'il le rangeait dans cette catégorie désormais. Il aurait aussi bien aimé savoir comment les trois femmes l'avaient trouvé et où était passé Loyal. Toutes les diversions étaient bonnes pour lui épargner une confrontation pourtant inévitable avec Feil. La jeune femme ne lui laissa aucun répit. Se campant devant lui, les poings sur les hanches, elle réussit à paraître bien plus grande que nature. Un truc très féminin, mais qui marchait à tous les coups.
« Te rendre ? »
rugit-elle.
« Te rendre ? C'était ton plan depuis le début ? Dis-moi que non, je t'en supplie. Espèce de crétin congénital ! Ton cerveau a fini par fondre, Perrine Aibara. Jusque-là, c'était un pois chiche, mais il ne fait même plus la taille d'une lentille. Si les fils de la lumière te poursuivent, ils te pendront dès que tu te seras rendu. Pour commencer, pourquoi en ont-ils après toi ? » ?»«
Parce que j'ai tué des capes blanches, Feil. »
Les yeux rivés sur sa compagne, Perrine ignora le cri de maîtresse Alvéré.
La nuit de notre rencontre, et deux autres avant ça. Ils savent pour ces deux-là, et pensent que je suis un suppôt de ténèbres.
Feil aurait fini par le découvrir, de toute façon. S'ils avaient été seuls, il lui aurait expliqué pourquoi de tels soupçons pesaient sur lui. Deux fils de la lumière, au moins, Geoffram Bornald et Jared Billard, se doutaient que son lien avec les loups n'était pas naturel. Ils n'en savaient guère plus, mais ça leur suffisait. Un homme qui frayait avec les loups devait être un suppôt des ténèbres. Un de ses deux fils était peut-être ici avec les capes blanches.
« Ils refusent d'en démordre, Feil. Pour eux, je suis un suppôt des ténèbres. »«
Tu ne l'es pas plus que moi, »
marmonna la jeune femme.
« Ou que le soleil. » »«
Ça ne change rien, Feil. Je dois faire ce qui s'impose. »«
Espèce de bœuf décérébré. Tu ne dois rien faire de tel, imbécile heureux. » Si tu essaies, je te pendrai de mes propres mains. Perrine,
intervint Marine.
Aurais-tu l'obligeance de me présenter la jeune femme qui professe une si haute opinion de toi?
Rouge comme une pivoine, Feil s'avisa qu'elle avait ignoré maître et maîtresse Alvéré. S'inclinant d'abondance, elle se lança dans des excuses sophistiquées et fleuries. Comme Gaul, Bane et Chiad demandèrent la permission de défendre la demeure de Marine, puis elles lui firent chacune un cadeau. Une petite coupe en or gravée de feuilles, et un gros moulin à poivre surmonté par une créature mi-cheval mi-poisson du plus bel effet. Bran se passa de nouveau les mains dans les cheveux et marmonna entre ses dents. Perrine capta plusieurs occurrences du mot « Aiel », toujours avec une bonne dose d'incrédulité. Le bourgmestre continua aussi à regarder par la fenêtre. Pas parce qu'il redoutait une invasion d'Aiel, puisqu'il avait été surpris d'apprendre que Gaul en était un. S'inquiétait-il plutôt au sujet des capes blanches? Quoi qu'il en soit, Marine prit les choses en main. Traitant Feil, Bane et Chiad comme des voyageuses ordinaires, elle souligna à quel point elle devait être fatiguée, complimenta Feil sur sa robe d'équitation, en soie bleu marine en ce jour, et répétant aux Aiel qu'elle admirait la couleur de leurs cheveux et leur éclat. Perrine aurait juré que les deux guerrières, au moins, ignoraient totalement comment se comporter avec l'aubergiste. Mais la femme de Bran, avec sa légendaire fermeté maternelle, réussit à convaincre ses hôtes de s'installer à une table et de faire un brin de toilette avec des serviettes humides, tout en se délectant d'une infusion directement venue de la bouilloire à rayures rouges que Perrine n'avait pas oubliée. Voire de féroces aventurières, le jeune homme rangeait sans hésitation Feil dans cette catégorie, tomber dans le panneau et minauder que tout était parfait, mais pouvait-elle aider d'une façon ou d'une autre la brave femme ? Aurait pu être amusant si la brave femme en question, après avoir réduit à néant la résistance des éléments féminins du groupe, ne s'était pas aussitôt attaquée à ces éléments masculins. Contraints de s'asseoir à la même table que leur compagne, Perrine et Gaul durent se débarbouiller avant d'avoir droit à une tasse d'infusion. Les aïels ayant un sens de l'humour bien à eux, Gaul garda un petit sourire sur les lèvres tout au long de cette épreuve. Bizarrement, Marine ne posa jamais les yeux sur l'arc et la hache de Perrine, et elle ignora tout aussi superbement les armes des aïels. À Deux Rivières, les gens n'étaient presque jamais armés, et quand ça arrivait, Marine exigeait qu'ils laissent leur quincaillerie dehors avant de s'asseoir chez elle. C'était la première fois que Perrine la voyait déroger à cette règle. Une autre surprise attendait le jeune homme. Sans un mot, Bran posa devant lui une coupe d'alcool de pomme. Pas une espèce de dé à coudre, comme les hommes en commandaient d'habitude à l'auberge. Juste de quoi se remplir une dent creuse, mais une coupe d'argent à moitié pleine. Avant son départ, Perrine avait tout juste droit à du cidre, quand ce n'était pas du lait, voire à du vin généreusement coupé d'eau. Un demi-gobelet avec un repas, et un entier les jours de fête. Être tenu pour un adulte était gratifiant, certes, mais le jeune homme s'abstint pourtant de boire. Habitué au vin, désormais, il ne buvait rien de plus fort, sauf circonstances exceptionnelles. Bran s'assit à côté de sa femme, en face de l'ancien apprenti forgeron.
« Perrine, personne de sensé ne croit que tu es un suppôt des ténèbres. Tu n'as aucune raison de te laisser pendre par les capes blanches. »
Fail approuva du chef avec une grande énergie, mais Perrine ne tint pas compte de sa réaction.
« Je ne changerai pas d'avis, maître Alvéré. Les fils de la lumière me cherchent. S'ils ne me trouvent pas, ils s'en prodront au premier Aïbara qui leur tombera sous la main. Ces gens n'ont pas besoin de grand-chose pour condamner les autres. Avec eux, être innocent n'est pas une protection.
Nous les savons. »
souffla maîtresse Alvéré. Bran baissa les yeux sur ses mains qui reposaient à plat sur la table.
« Perrine, ta famille n'est plus là. »«
Plus là ? Vous voulez dire que la ferme a déjà brûlé ?»
Le jeune homme prit la coupe d'argent et la serra à s'en faire blanchir les jointures.
« Moi qui croyais être arrivé à temps, mais j'ai été trop optimiste. Les nouvelles ont dû mettre trop longtemps à m'arriver. Qui sait, je pourrais peut-être aider papa et oncle Edward à tout reconstruire. Où se sont-ils tous réfugiés ? Il faut que je leur parle très vite. »
Bran se décomposa et Marine lui tapota gentiment l'épaule, mais sans cesser de regarder Perrine avec une tendresse mélancolique des plus étranges.
« Ils sont tous morts, mon garçon. »
dit très vite Bran.
« Mort ? Non ! C'est impossible !»
Sentant un liquide couler sur sa main, Perrine baissa les yeux sur la coupe d'argent qu'il venait de broyer entre ses doigts.
« Désolé, je ne voulais pas. »
Il tenta de redonner sa forme d'origine à la coupe. En vain, bien entendu. Comme si elle était en sucre, il la posa alors au milieu de la table.
« Je la remplacerai. Je peux. »
S'essuyant la main droite sur le devant de sa veste, Perrine découvrit que la gauche caressait la hache glissée dans sa ceinture. Pourquoi les autres le regardaient-ils si bizarrement ?
« Vous êtes sûr, maître Alvéré ? Adora et des ailes. Pait. Maman. »
« Tous. Tes tantes, tes oncles et tes cousins aussi. Il n'y a eu aucun survivant. J'ai aidé à les inhumer, mon garçon. Ils reposent sur la butte couverte de pommiers. Tu vois laquelle je veux dire ?»
Perrine porta son pouce à ses lèvres. Quel imbécile il fallait être pour se couper avec sa propre hache.
« Maman adore les pommiers en fleurs. Les capes blanches. Mais pourquoi avoir... Bon sang, Paët avait 9 ans. Et les filles ?»
Perrine s'étonna du ton monocorde de sa voix. En un moment pareil, elle aurait dû vibrer d'émotion, non ?«
Les Trollocs sont coupables, »
dit maîtresse Alvéré.
« Ils sont revenus, Perrine. Pas pour attaquer le village, comme au moment de ton départ. Mais ils rôdent sur le territoire. Les gens ont abandonné presque toutes les fermes trop isolées. Et personne ne sort plus la nuit, même près du village. C'est pareil à Colline de la Garde et à Promenade de Deven. Et peut-être aussi à Bac-sur-Tarenne. Même si ce ne sont pas des anges, les Fils de la Lumière restent notre seule protection. Ils ont sauvé 2 familles de ma connaissance attaquées par les Trollocs. Je voulais... J'espérais... »
Perrine ne parvint pas à se souvenir de ce qu'il avait voulu. Quelque chose qui avait un rapport avec les Trollocs, semblait-il. Les capes blanches protégeant Deux Rivières ? Il y aurait presque eu de quoi rire.
« Et la ferme de Tam ? Les Trollocs aussi ?»
Marine voulut répondre, mais Bran la devança.
« Ils méritent d'entendre la vérité, mon épouse. C'était les capes blanches, mon garçon. Comme pour la maison des Cotonnes.
La famille de Matt, le père de Rand,
mes proches. »
Bizarrement, Perrine parlait du ton qu'il aurait pris pour évoquer la pluie ou le beau temps.
« Tous morts, eux aussi ?»«
Non. Abel et Tam se cachent quelque part dans le bois de l'Ouest. Quant à la mère de Matt et à ses sœurs, eh bien, elles ont également survécu. »«
Elles se cachent aussi ?»« À quoi bon s'étendre sur ces détails ?»
coupa Marine.
« Bran, apporte à ce garçon une autre coupe d'alcool. Et celle-là, tu vas la boire, Perrine. »
Maître Alvéré ne bougea pas, et sa femme, bien que mécontente, n'insista pas.
« Je te proposerai bien une chambre, mais c'est trop dangereux. Si certains villageois découvrent que tu es ici, ils courront prévenir le seigneur Bornald. Edward Congar et Harry Coplin se coupent en quatre pour les Fils de la Lumière, prêts à tout pour leur plaire, y compris au pire délation. Sen, lui, ne se comporte guère mieux qu'eux. Et si Daze ne l'arrêtait pas, Whit Congar aurait également tout du dénonciateur en série. Daze est la sage-dame du village désormais. Il vaut mieux que tu partes, Perrine. Crois-moi, c'est préférable pour tout le monde. »
Perrine secoua la tête comme s'il venait de recevoir une paire de gifles. « Daze Congar, sage-dame ? Une femme plus dangereuse et aussi peu sensée qu'un taureau ? Les capes blanches combattant pour défendre Chandemonde ? Harry, Edward et Will prêts à toutes les trahisons ? Les Congar et les Copeline étaient capables de tout, certes. Mais le vieux Senbuy, lui, faisait partie du conseil. Le seigneur Bornald ? Ainsi, Jofram Bornald était bien présent. Perrine s'avisa que Fail le regardait, les yeux humides. Pourquoi était-elle ainsi au bord des larmes ?
« Brandelwyn, Alvéré, »
dit Gaul.
« Ce n'est pas tout. Je le lis sur votre visage. »«
C'est vrai, »
concéda Bran. Sa femme lui fit non de la tête, mais il n'en tint pas compte.
« Marine, il mérite d'entendre la vérité. Toute la vérité. »
Maîtresse Alvéré capitula avec un soupir. Femme de tête, elle se montrait souvent obstinée, sauf quand son mari affichait une telle détermination, les sourcils arqués comme le soc d'une charrue.
« Quelle vérité ?»
demanda Perrine. Sa mère aimait les pommiers en fleurs. C'était vrai, non ?«
Pour commencer, Padan Fain est avec les Capes Blanches. Il se fait appeler Ordate. Et ne répondrait pas à son vrai nom. Mais c'est lui, ça ne fait aucun doute. »«
C'est un suppôt des ténèbres. »
dit distraitement Perrine. Au printemps, Adora et Dézel piquaient toujours des fleurs de pommiers dans leurs cheveux.
« Il l'a reconnu lui-même. » C'est lui qui a fait venir les Trollocs lors de la nuit de l'hiver.
Paette s'amusait comme un fou quand il grimpait au pommier. Si on ne le surveillait pas du coin de l'œil, il aimait bombarder les gens de pommes.
« Un suppôt, oui, »
répéta Bran.
« C'est là que ça devient intéressant. Fain a une certaine autorité sur les Capes Blanches. La première fois que nous avons entendu dire que les fils étaient là, ce fut après l'incendie de la ferme Altor. Fain dirigeait les fils qui ont fait ça. Tom a planté une flèche dans quatre ou cinq de ces types avant de filer dans le bois. Il est arrivé à temps chez les Cotton pour empêcher l'arrestation d'Abel. Mais Natty et les filles n'ont pas eu cette chance. Harald et Alsbeth Luhan ont connu le même sort qu'elle. Fain aurait bien fait pendre tout ce joli monde, mais le seigneur Bornald ne l'a pas laissé faire. Cela dit, il n'a pas libéré non plus nos amis. Pour ce que j'en sais, on ne leur a pas fait de mal, mais ils sont prisonniers à Colline de la Garde, dans le camp des Fils de la Lumière. Pour une raison qui me dépasse, Fain vous déteste, Rand, Matt et toi. Il a offert une prime de 100 pièces d'or pour quiconque a un lien avec vous. Et 200 pour Tam ou Abel. Le seigneur Bornald semble s'intéresser tout particulièrement à toi. Quand une patrouille vient au village, il l'accompagne souvent et pose des questions à ton sujet.
Oui, c'est normal.
Marmonna Perrine. Perrine de Deux-Rivières, l'ami des loups et le suppôt des ténèbres. Fain avait dû compléter la liste.
« Fain avec les capes blanches ?»
Une pensée très lointaine, mais ça valait toujours mieux que d'évoquer les Trollocs. Voyant que ses mains tremblaient, Perrine les posa bien à plat sur la table.
« Le fils vous protège des Trollocs ?»
Marine se pencha vers le jeune homme.
« Mon petit, nous avons besoin d'eux. C'est vrai, ils ont brûlé le foyer de Tam et celui d'Abel. Ils ont arrêté des gens et ils paradent dans nos rues comme si Chandemonde leur appartenait. Mais nos amis sont indemnes. » Et la situation devrait s'arranger un jour ou l'autre. Des gens ont dessiné le croc du dragon sur quelques portes. Mais personne n'y prête attention, à part les Congar et les Coplines. Et ce sont probablement eux qui ont fait les dessins. Tam et Abel peuvent se cacher jusqu'au départ des Capes Blanches. Mais en attendant, et tant que des Trollocs rôdront sur le territoire, nous aurons besoin de défenseurs. Nous préférerions que tu restes, mais leur aide nous est indispensable. Et nous refusons qu'ils te pendent.
Tu appelles ça être protégée, maîtresse du toit ?
Demanda Bane.
Quand on demande à un lion de tenir les loups à distance, on choisit simplement le ventre dans lequel on finira. Vous ne pouvez pas vous défendre vous-même ?
Ajouta Chiad.
J'ai vu Perrine se battre, et Matt Cotton, et Randall Thor. Ils sont du même sang que vous.
Bran eut un soupir accablé.
Oh, nous sommes des fermiers, des gens très humbles. Le seigneur Luc a bien proposé d'organiser une milice pour combattre les Trollocs. Mais ça implique de laisser nos familles sans défense pendant que nous patrouillerons avec lui. Personne n'a aimé cette idée.
Perrine se demanda qui était ce seigneur Luc. Il posa la question, et maîtresse Alvéré lui répondit.
Il est arrivé à peu près en même temps que les Capes Blanches. C'est un quêteur, tu sais, la grande quête du corps. Il pense que le corps de Valère est quelque part dans les montagnes de la Brume, au-dessus de Deux-Rivières. Mais il a renoncé à sa quête à cause de nos problèmes. C'est un gentilhomme aux manières très raffinées.
Marin se lissa les cheveux et sourit. Maussade, Bran lui coula un regard noir. Un quêteur des Trollocs et des Capes Blanches. Deux-Rivières avait bien changé depuis le départ de Perrine.
Fail est une quêteuse,
dit le jeune homme.
Tu connais ce seigneur Luc ?
J'en ai assez,
lâcha la jeune femme. Sous l'œil perplexe de Perrine, elle se leva, approcha de lui, lui prenant la tête pour l'attirer contre son ventre.
Ta mère est morte. Ton père, tes sœurs et ton frère aussi. Tu ne peux plus rien changer. Et surtout pas en finissant au bout d'une corde. Il est temps de pleurer tes morts. Ne garde pas ton chagrin en toi, ou il finira par s'infecter.
Perrine saisit les bras de Fail pour l'écarter de lui. Mais à sa grande surprise, il n'en fit rien, se contentant de s'accrocher à sa compagne comme si elle était le dernier être vivant au monde. Qu'allait-elle penser de lui ? Il voulut dire qu'il allait bien, qu'il s'excusait d'avoir craqué un bref instant, mais d'autres mots jaillirent de ses lèvres.
« Je suis arrivé trop tard. Je n'ai pas pu. »
Perrine serra les dents pour ne plus s'épancher ainsi.
« Je sais, »
souffla Fail en lui caressant les cheveux comme s'il était un enfant.
« Je sais. »
Plus elle lui murmura des paroles réconfortantes, plus il pleura, comme si ses mains si douces, en lui caressant la tête, l'aidaient à verser toutes les larmes de son corps.